Tes blobs étaient tellement rapides sur le piton qu'on n'était pas vraiment live. Attends, okay.
Blob, always sur le piton. Ouais, il y a un atelier de piton d'ailleurs, le langage de programmation, auquel Edith m'a invité. Puis c'est quand? C'est en fin de semaine?
C'est le 13 mars.
Le 13 mars.
C'est pas ce samedi, c'est le prochain.
Hey!
C'est vous l'histoire derrière ça? Moi, je suis in de comprendre pourquoi qu'il y a un langage de programmation qui a le nom d'un serpent.
C'est pas le nom d'un serpent, c'est le nom de Monty Python, le groupe d'humoristes britanniques.
Pour vrai? C'est encore meilleur! C'est bien drôle!
Si tu vois dans la documentation de Python, il y a plein d'exemples qui sont issus des sketchs des Monty Python.
Nous sommes le jeudi 4 mars 2021. Vous écoutez On a juste une vie, épisode 311. Je suis Narf.
Je suis Blob.
Je suis Anne-Marie.
Et ce soir, on a une invitée que qu'on appelle Edith et qu'on appelle... Excusez. Je pense que les intros, OK? La feuille de route, c'est tout écrit pour que j'y pense pas. Puis là, quand on a fait, quand il faut faire de quoi de nouveau puis qu'on reçoit des invités, à chaque fois, je suis comme... Bonjour, Edith.
Bonjour.
Et qui s'appelle aussi... Comment tu le prononces? C'est Finartialiste? Finartialiste? Comment tu le prononces?
Moi, je le prononce à l'anglais, de Finartialiste. Mais comme, en fait, je suis en train de me dire peut-être que j'aurais renommé le projet comme un autre nom qui est plus, plus simple à dire, je sais pas.
Ah, mais
parce que c'est bon
tellement...
comme nom.
Ouais, moi aussi je trouve ça excellent. Parce que ça mélange fine arts, puis on entend bien le fine art dedans. Puis les finances, fait que... Ouais, je trouve ça excellent. Fait que ça, c'est le nom du projet, plus que ton nom d'artiste, mettons.
Ben, c'est le nom de mes projets d'art qui sont reliés à l'art, économie, marché, finance, etc. Mais j'ai d'autres intérêts en art que ce qui est à la finance. Fait que j'essaie de séparer les deux, mais sans nécessairement faire vraiment une grande distinction. Là.
Parce que moi, le premier truc que je me rappelle d'avoir vu de toi... C'était genre, ça devait être à Flop ou dans le chat, dans le groupe chat de Flop. C'était genre une affaire qui faisait de la musique basée sur les cours de la bourse.
Oui.
Puis genre, ça faisait, en tout cas, ça faisait des notes. Je sais pas si c'était, je pense que tu te demandais comment rendre ça plus harmonieux ou quelque chose comme ça. Puis moi, j'étais comme...
Ouais.
Je le sais pas. Je suis dans la même situation. J'essaie d'apprendre à faire de la musique, moi aussi.
Je pose encore la question. Je suis un peu comme... jusqu'à quel point j'ai envie de prendre le temps de bien maîtriser le médium du son. Ou est-ce que c'est plus comme une distraction de mes autres projets? Comme, est-ce que ça deviendrait plutôt une distraction? Je veux dire, c'est dans le sens, pas une distraction au sens de minimiser, mais au sens de ça demande beaucoup de temps. Ça demande vraiment beaucoup de temps. Là. Il y a... Fait que je sais pas, je me pose la question.
Comment est-ce que t'as... Mettons que là, qu'on veut faire une belle introduction au podcast, puis qu'on veut dire genre, ah, Edith a fait ça. Comment tu décrirais le « ça » en quelques phrases, mettons?
Ah, oh mon Dieu, c'est une bonne question. Je sais pas. Je
commence toujours avec les pires questions.
Ben, ce qu'Anna avait écrit, une artiste qui mélange principes mathématiques, philosophie, programmation et art, c'est pas pire, mais ça reste quand même très vague. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est... Ce qui m'intéresse, c'est explorer et ouvrir la boîte noire de c'est quoi un marché avec des méthodes artistiques. Ça, on pourrait dire que c'est ça qui m'intéresse. Ça reste quand même général, mais sans être vague.
Puis quand tu dis marché, tu veux dire...
Toutes sortes de marchés. Pas nécessairement juste la bourse, là. Je veux dire les marchés publics. Ça m'intéresse.
Ok. Puis toi, tu viens de... Tu sais quoi ton background un peu là, pour qui t'a mené là, mettons?
J'ai fait mes études de premier cycle en mathématiques, quelques années. Et puis ensuite, j'ai fait une maîtrise en ingénierie financière. J'ai travaillé un peu dans le domaine, mais ça a pas fait long feu.
Ça fait quoi
Et
ça,
puis,
ingénierie financière?
tu fais principalement du pricing de produits dérivés et de la gestion de risque de portfolio. C'est les deux principales activités. Ensuite, ça peut vouloir dire beaucoup, beaucoup d'autres choses, mais comme, ouais.
Puis mettons pour quelqu'un qui fait juste jouer à des jeux vidéo puis qui a aucune idée de qu'est-ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que
Dans les jeux vidéo, il y a des économies souvent, non? Des économies artificielles, bien sûr, mais il y a souvent des économies. Fait que tu serais comme la personne qui se demande.
Comme je comprends vaguement, mais genre pas
J'espère
assez pour le vulgariser, là.
genre, quand tu parles à ta grand-mère,
Mettons,
comment
t'es dans un
tu
jeu
dis?
vidéo pis t'es comme, est-ce que ça vaut la peine d'obtenir cet article-là dans le jeu vidéo?
Ah.
Ben, tu vas te faire
D'investir.
un modèle pour déterminer si ça vaut la peine de développer cette compétence-là ou quelque chose dans le genre.
Comment tu fais
Mais
l'Excel?
Ben oui, t'en fais des fois l'Excel.
la personne qui va faire l'ingénierie financière va faire juste le modèle. Elle va pas prendre la décision. Elle va pas. C'est de l'aide à la prise de décision. Est-ce que ça fait
Fait que
plus de
beaucoup.
sens?
Ouais, fait que beaucoup de feuilles Excel dans le fond.
Beaucoup de feuilles Excel, oui.
OK. Puis de Python.
Et de Python.
Ça me clique de bord de juger les modèles des autres, les utiliser pour améliorer les tiennes, puis toutes sortes de choses comme ça, j'imagine.
Oh.
Jusqu'à un certain point, oui. Mais c'est peut-être plus des juger d'un point de vue plus académique que pratico-pratique, des fois, je sais pas.
Fait que là, après avoir fait cette ingénierie financière, machin chose, c'est quoi la suite? Comme, mais en quoi ça t'a amené à dire genre, et là, je fais des jeux vidéo?
Pendant ma maîtrise, je voulais pouvoir écouter les algorithmes que j'utilisais dans mes devoirs.
Wow. Fait que c'était vraiment ça
Et
qui t'a
puis là, je me
lancé,
suis
dans le
dit,
fond. Le projet de musique financière.
ouais. Je me suis dit, je voulais pouvoir les écouter, savoir combien de fois, quelles étapes. Était répété, par exemple, ce genre de choses-là. C'était quoi le résultat de chacune des étapes, ce genre de trucs-là. Puis c'est là que j'ai commencé à changer mes programmes pour qu'ils inscrivent des notes ou des notations musicales quelconques dans un fichier à part du fichier du devoir pour pouvoir l'interpréter par la suite en musique. Mais tout ça était très ardu dans le sens où j'utilisais Libsyn File, qui est comme une librairie vraiment low level de production musicale. Je dirais même pas de la production musicale, mais c'est vraiment comme. C'est une librairie en C, je pense. Si ma mémoire est bonne. C'est vraiment comme. C'est la librairie que les programmes vont utiliser, que les programmes plus proches de plus haut niveau vont utiliser.
Pour
Fait que
produire
c'est
des
ça.
sons.
Ouais.
OK.
Fait que j'utilisais ça. Puis après quelques semaines, je me suis dit, bon, mais ça, c'est bien beau, mais comme je vais pas utiliser les Libsyn Files directement, pas, tu sais, de façon régulière, ça fait aucun sens de produire la musique de cette façon-là. Fait que je suis partie à la recherche d'un autre programme. J'ai trouvé Seasound après quelques recherches. Ça semblait bien fonctionner, ça semblait un peu complexe. J'étais comme, je sais pas, je vais réussir à l'apprendre, mais je suis restée avec. J'utilise encore. Puis,
Ça
ça me
sonne
fait
bien.
penser.
Oh, j'ai juste
Moi,
dit
ça me
ça
fait
sonne bien.
penser Il y a une affaire qui s'appelle Sonic Pie ou juste Sonic. Mais je pense que c'est du Ruby, le langage. Puis je l'avais utilisé un peu. J'ai fait 3-4 cossins quand même intéressants avec. C'est vraiment comme écrire du code pour faire de la musique live. Fait que je sais pas si. Je sais pas que. Je pense qu'en dessous, c'est Super Collider. Fait que. Qui est plus low level, I guess, mais peut-être plus high level que les affaires que tu as utilisées. Je sais pas si tu connais ça.
Sonic Pie, je connais de nom. Il me semble que c'est avec Super Collider aussi, mais j'ai jamais regardé, fait que je pourrais pas te dire. C'est probablement plus que moi.
Et qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort d'une librairie ou d'un programme comme ça? C'est quoi ces inputs? Puis comment lui il les interprète? Est-ce que c'est des fréquences? Est-ce que, je sais pas moi, tu vas faire jouer des fichiers ou t'as le choix?
Libsyn Files, ça fait un peu longtemps que j'ai travaillé avec. Ça serait difficile pour moi de dire. De mémoire, c'était travailler directement avec des sine waves, là, des sinus, des fréquences, des amplitudes.
Ok.
Mais il y avait probablement une façon d'utiliser qui soit plus haut niveau que ça, mais comme j'étais quand même relativement débutante en programmation à ce moment-là, j'étais débutante en beaucoup de choses, en programmation audio aussi, fait que c'est un peu confusant et pour moi. Mais ceci étant dit, si tu te poses la question, ça me ferait plaisir de regarder ça après le podcast et de te revenir là-dessus. Pour CSound, comment ça fonctionne, CSound comme tel, tu as un fichier qui est séparé en trois étapes. Tu as comme les métadonnées du type est-ce que tu veux, qui est comme la configuration. Est-ce que tu veux que ton fichier audio va être enregistré dans un fichier à part, un point wave par exemple, ou un FLAC ou autre? Ou est-ce que tu veux que ce soit de l'audio live? Ensuite, tu as les synthétiseurs, où tu vas, comme tel, définir des instruments. Puis, ça fonctionne un peu, je ne sais pas si tu as déjà programmé en assembleur, mais ça ressemble un peu à l'assembleur, dans le sens où tu as un opcode, puis tu as des arguments ensuite qui sont pris par les fonctions. Puis, les fonctions agissent souvent sur d'autres choses que. Stricto sensus, les arguments qu'on leur passe en paramètres, comme pour de l'assembleur. Et en dernier, tu as le score, qui est comme la partition musicale. Fait que tu dis, joue tel instrument à partir de tel moment, pour telle durée, voici les paramètres que je passe à l'instrument. Et comme tout ça, c'est du logiciel, c'est pas du hardware. Et tu as beaucoup plus de. T'as une grande flexibilité quant au nombre de paramètres que tu peux passer, comparativement à des synthés modulaires, par exemple. Je sais pas si ça répond à la question, je sais pas si c'est clair.
Oui, ça donne une bonne idée. C'est pour ceux qui connaissent pas beaucoup la synthèse audio, tu as une couple de techniques qui est utilisée, de ce que je comprends de comment ça s'appelait? Libsound.
File.
OK, Libsound, c'est de la synthèse additive. Fait que tu pars avec juste des sine waves, puis tu peux les additionner ensemble. Ben, j'imagine que tu pouvais en faire jouer plus qu'une en même temps. Théoriquement, mathématiquement, tu peux décomposer n'importe quelle onde sonore en un sous-set d'ondes sinus, comme ça. Fait que quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait puis qui crée les bonnes fonctions peut générer n'importe quel son. C'est
Ouais.
en théorie faisable, en pratique super difficile, mais tu peux écrire un instrument ou une patch qui sonnerait comme peu importe qu'est-ce que tu as envie qu'il sonne, puis ensuite les faire jouer. Puis la deuxième chose, c'est que tes synthétiseurs existent déjà. Tu peux les modifier un petit peu. Ça ressemble à un synthétiseur traditionnel où est-ce que là, on te donne une coupe de différentes waveforms qu'on appelle. Fait qu'ils vont avoir différentes formes qui sont pas nécessairement des sinus. Puis tu peux les filtrer par des choses. Tu peux contrôler les harmoniques dedans.
Mais là, pour revenir un peu plus à comme des trucs que Edith, tu fais. Fait que là, tu avais fait le projet de. Ce projet-là de. Voyons, de musique financière. Mais après ça, comme. me semble pas longtemps après, je me souviens dans les meetings de flop, ça s'est mis à exploser. Là. Tu nous arrivais d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, avec à chaque fois des nouvelles patentes. Je pense que c'était à ce moment-là que tu as embarqué sur ton projet de NP complexe puis de faire des jeux avec ça, c'est ça? Peux-tu nous en parler un peu
Ouais.
plus?
Oui, donc, je veux dire, je pense que la première fois que j'ai présenté à Flop, c'est peut-être la deuxième fois que j'étais à Flop, ou peut-être la troisième. C'est sur un jeu qui voulait émuler la recherche en mathématiques, mais en forme de jeu de société. Scoop, j'ai pas retravaillé dessus depuis.
C'est toujours comme ça, tu sais.
Ouais.
C'était lequel le premier?
Je pense que j'ai travaillé dessus, pas parce que le sujet n'est pas intéressant, mais justement parce que le sujet est tellement intéressant que comme si je veux faire ce que je veux faire avec, je sais que ça va me prendre comme t'sais, un bon 2, 3 ans, sinon plus, là. Fait que on va y penser.
C'était lequel, celui-là, le premier?
C'est-tu la galerie d'art?
C'était un jeu avec des hexagones, puis les triangles, puis là, tu flippais des cartes, puis là, ça te faisait avancer ta recherche, ou des fois, ça faisait reculer ta recherche, ce genre de choses-là. C'était comme... C'est encore très conceptuel quand je l'ai présenté, fait que c'est correct si tu t'en rappelles pas, je pense. Mais ouais, il y avait ça. Ensuite, le deuxième jeu que j'ai présenté, c'était quoi? Je pense que j'ai tout de suite présenté sur les jeux NP complets, ou le concept que j'avais en tête, du moins. Je suis plus certaine. Mais bref, pour les jeux NP complets, l'idée, c'est ce qui m'intéresse de façon générale, ce qui m'intéresse pour les marchés, l'économie, la finance, c'est le fait que c'est un système qui permet de prendre des décisions ou d'arriver à des décisions, de faire circuler l'information, ce genre de choses-là. Et puis, les systèmes m'intéressent aussi de façon générale. Puis pour les jeux, la question à laquelle j'essaie de répondre, c'était est-ce que c'est possible d'avoir un système qui nous permet de créer des jeux de façon automatique?
Le rêve.
Mais pas nécessairement créer le jeu dans le sens comme, tu sais, créer les assets, créer le code, etc. Là, vraiment, créer le concept du jeu, là, le core. Fait que ça a comme nourri une réflexion sur, ben, donc, c'est quoi un jeu? Est-ce que c'est nécessairement quelque chose qui doit être amusant, par exemple?
Hey boy.
Puis, est-ce que c'est possible de le définir d'une façon mathématique? Il y a toute la théorie des jeux en mathématiques, et c'est pas... La théorie des jeux se pose pas nécessairement des questions reliées au fun à jouer à un jeu. Dans le sens où il y a des jeux qui, selon la théorie des jeux, devraient être ennuyants parce par exemple, il y a une stratégie premier joueur qui fait en sorte que si t'es le premier joueur que tu suis cette stratégie-là, tu gagnes de façon systématique. Qui fait en sorte que, comme, ben, ces jeux-là devraient être pas le fun.
Sont le
Ça aurait
fun
des
parce
jeux
qu'on
plats.
est ignorant.
Mais à partir du moment où tu réalises cette
Ça.
stratégie-là, mathématiquement parlant, on s'explique mal comment quelqu'un pourrait continuer à apprécier ce jeu-là, mais je veux dire, on peut continuer à apprécier ce jeu-là, on peut vouloir y jouer, on peut vouloir montrer à quelqu'un d'autre à jouer ce jeu-là si la personne n'y a jamais joué, et etc. Comme, il y a plein d'autres raisons valides qui font en sorte que ce jeu-là peut être plaisant. Fait que la question que je me posais, c'était, s'il y a pas de... Si les mathématiques ne permettent pas de définir c'est quoi un jeu le fun ou c'est quoi un jeu point, est-ce qu'on peut avoir un système qui nous permet quand même de créer des jeux de façon systématique pour une certaine définition de jeu, pour une certaine définition de plaisir de jouer? C'est là que je me suis posé la question, OK, mais il y a beaucoup de jeux qui, sinon le jeu comme tel, mais du moins la généralisation du jeu, sont dans la classe de problèmes, sont reliés à des problèmes NP complets en informatique. Dans la complexité de calcul. Je me suis dit, peut-être qu'à la place de se demander, est-ce que ce jeu est NP complet, on peut partir d'un problème NP complet puis obtenir un jeu. C'est là que je me suis mis à lire sur les problèmes NP complets et chercher des listes de problèmes NP complets et me dire, comment je peux en faire un jeu? Est-ce qu'il y aurait une heuristique qui me permet de prendre ce problème-là et d'en faire un jeu?
Est-ce qu'on a donné la définition d'un problème NP complet? Je pense que non.
Je pense pas. Je suis vraiment pas la meilleure personne pour l'expliquer parce
Ben, t'es sûrement
que.
la meilleure personne d'entre nous, en tout cas.
Peut-être, je sais pas. Mais je veux il y a une
Ben sinon,
définition
je vais
très
aller sur
précise de
Wikipédia, là, puis
mathématiques.
sur
On peut la
Wikipédia, ça va
définition de
être
Wikipédia, ça
super
ne dérange
compliqué.
pas. Mais moi, ma
Pas une
définition que je donne en
interprétation.
général, la définition que je donne en général, ça va être un problème qu'on peut définir, qu'on peut définir par de façon algorithmique, un problème qu'un ordinateur peut comprendre, mais qui va être difficile, même pour un ordinateur difficile, de trouver une solution à de résoudre. C'est comme ça que je me l'explique de façon très langage naturel, là.
Ouais, puis même pour des humains,
C'est pas sans
genre,
la
quand.
même définition. C'est pas sans la définition exacte pour autant.
Tu sais, comme même pour des humains, tu donnes. T'expliques un des problèmes comme ça, tu dis à... tu mets quelqu'un, tu dis, genre, voici le truc, c'est d'habitude assez facile à comprendre. Ah, c'est facile. Puis là, comment. Tu sais, quand t'essayes de le faire, t'es comme genre, ah, c'est tough, dans le fond. Je me souviens, t'en avais fait un, c'était le gardien du musée, je pense.
Oui.
Comme.
Ouais, je l'ai fait cette
Dans
semaine.
un musée, fait que je vais essayer
C'est beaucoup de gossage.
t'es dans un musée, et le musée, il y a des colonnes puis des objets qui obstruent la vue, puis là, tu veux qu'il y ait un gardien de sécurité qui est capable de voir partout en même temps. Ou en tout cas, d'avoir le moins de gardiens de sécurité possible pour quand même voir tout le musée au complet. Mais là, c'est genre, où est-ce que tu places les gardiens et comment et pour qu'il y en ait le moins possible. Parce que c'est sûr que si tu mets 2000 gardiens, bon ben ils vont tout voir partout, fait que ça c'est super easy. Mais là, si tu dis
C'est
genre,
pas
c'est quoi le
optimal.
nombre minimum de gardiens que j'ai besoin pour surveiller tout le musée, puis qu'ils voient quand même tout, qu'il n'y ait pas d'angle mort dans le fond. Puis là, tu avais fait un jeu là-dessus, que c'était genre placer des ronds pour qu'il y ait les gardiens pour voir le musée au complet. Puis c'est facile de trouver une solution, mais c'est très difficile de dire cette solution est la meilleure. Parce que, genre, je suis sûr qu'il n'y a pas moyen d'utiliser moins de gardiens. Mettons, j'ai réussi avec 5. Est-ce que je serais capable avec 4? Ah, c'est très difficile à prouver parce qu'il y a comme ben trop de solutions. Il y a ben trop de possibilités, dans le fond.
Mais si je
Moi, c'était comme ça
comprends
que je le
bien,
voyais.
c'est ça, si je comprends bien en lisant la définition sur Wikipédia, c'est que c'est ça, il y a moyen de trouver la meilleure solution, c'est juste que tu vas chercher. Puis t'es mieux d'avoir un ordinateur qui va t'aider avec le calcul, parce que sinon tu vas calculer longtemps. C'est comme des problèmes d'optimisation, c'est ça, les autres exemples qu'ils présentent de problèmes LP complets, ça a l'air d'être justement des problèmes d'optimisation, mais d'un degré assez complexe que pour un être humain, tu vas t'asseoir, puis tu vas prendre le temps, puis c'est un problème sur lequel bosser, là. Ça fait du
Là, ce
sens,
que
hein?
je comprends, c'est que quand ces types de problèmes-là, aussitôt que tu commences une solution, ça t'emmène sur des chemins que tu ne pouvais pas prévoir dès le départ. C'est pas comme juste trier des objets du plus grand au plus petit. Tu peux juste regarder chaque objet, les placer en suivant un certain cycle, puis quand c'est pas réussi, tu recommences du début, puis tu refais la même chose jusqu'à temps que tu les aies toutes placées en ordre. Ça, c'est un problème facile. Un problème difficile, c'est où est-ce que quand tu déplaces les objets, ils se retrouvent à des endroits qui sont pas nécessairement intuitifs. Comme si c'est pas toi qui décides où est-ce que t'es place, il y a une partie de l'information qui t'est pas accessible, ils s'en vont ailleurs, puis après ça, faut que tu les retrouves. Comme ça serait un genre de problème difficile. Dans la galerie d'art, c'est comme si tu choisis d'avance combien tu veux mettre de garde, tu sais pas où est-ce que tu vas les placer. Puis si tu choisis où est-ce que tu vas les placer, tu sais pas combien ça va t'en prendre. Puis quand tu commences, ça t'emmène sur un chemin où est-ce que tu sais pas si tu aurais dû commencer autrement. Tu peux pas planifier facilement où est-ce que tu t'en vas. Ça, c'est juste une explication. Il y en a plein parce que c'est très général. Est-ce que ça fait un peu le tour ou on se trompe complètement?
pense que tout ce qu'on a dit, ça fait du sens, mais si ça reste pas clair, c'est
bon,
possible.
Mais on a assez. Mais moi, en fait, ce qui m'intrigue, c'est genre, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce concept-là, dans cette catégorie de problèmes qui sont discutés à l'université par des mathématiciens sérieux qui aiment ça, faire des choses sérieuses. Puis qu'est-ce qui a fait, genre, que tu t'es dit, genre, hey, moi, je vais prendre ça, je vais faire des jeux avec.
Ben, comme je disais, c'est peut-être des problèmes sérieux et des problèmes importants, mais comme ça n'empêche pas les gens de déjà se poser la question, est-ce que ce jeu-là rentre dans cette catégorie-là?
Mm-hmm.
On sait, par exemple, je pense, la généralisation de Tetris et NP complète, si ma mémoire est bonne, puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux vidéo classiques qui sont des jeux NP complets. Fait que ces deux concepts-là étaient pas si éloignés que ça, pour moi, je dirais.
Wow, je savais pas ça.
Ben, on parlait,
mais c'est vrai que si tu veux jouer à n'importe quoi puis tu veux optimiser, genre, c'est quoi le chemin le plus rapide pour me rendre à ma quest, ou c'est quoi le chemin optimal pour faire toutes mes quests d'une shot.
Ben, c'est ça que je trouvais intéressant tantôt quand on parlait que certains... Je pense qu'un des exemples que tu donnes dans un des essais, c'est le tic-tac-toe. Certains jeux sont juste complètement résolus puis il existe une seule façon de jouer qui est optimale. Puis si tu fais pas cette façon-là, ben tu fais juste t'exposer à perdre. Puis ben, j'ai l'impression que dans les jeux vidéo, en fait, on s'en rend pas souvent compte, puis c'est que la complexité aussi vient un peu obscurcir ça, mais c'est ça, il y a des jeux vidéo qui seront résolus, c'est juste que la majorité des gens ne le savent pas, mais j'ai l'impression qu'on le voit un peu... mettons, si je prends l'exemple de StarCraft, là. Quelqu'un qui est un pro de StarCraft, qui regarde quelqu'un qui joue pour le plaisir une fois de temps en temps jouer, ça va tellement le frustrer parce que toutes les décisions sont non optimales. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de jeux dans lesquels tu peux atteindre un niveau où t'as tellement de meilleure connaissance de ce qui est optimal que c'est sûr que c'est ça que tu vas faire. Tu vas jamais aller faire des choses non optimales parce qu'il y a aucun intérêt, peut-être, de faire ces manipulations-là. Tandis que quelqu'un qui le sait pas encore, qui est pas encore éclairé peut-être à quel est le ou qui a pas fait encore assez d'essais pour trouver la solution optimale, ben il va juste faire des trucs qu'il pense qu'ils sont corrects. Puis ça donnera pas... c'est ça, mettons, dans le cas de StarCraft, ça fait deux catégories de gens qui peuvent absolument pas jouer ensemble parce que leurs niveaux de jeu sont complètement différents. C'est comme connaître la solution tic-tac-toe puis jouer avec ton neveu de 5 ans puis tout le temps le ramasser.
Ou jouer à Smash Bros. Avec mon frère. C'est comme plus le fun.
Pourquoi jouer à Smash? Il y a comme des jeux intéressants qui sont entre les deux. Par exemple, les dames, c'est parfaitement résolu comme le tic-tac-toe, mais les gens jouent quand même aux dames parce que la solution est tellement longue, l'algorithme est tellement compliqué qu'à peu près personne le connaît par cœur.
Oh.
Mais il existe.
Mais je voulais apporter le Go aussi comme exemple parce que tu en as parlé tout à l'heure, là. Est-ce que c'est MP complet, le Go? C'est-tu résolu?
Avant ça, est-ce que les échecs le sont? Parce que dans l'ordre, les dames, c'est moins complexe que les échecs, puis les échecs, c'est moins complexe que le Go. Je suis pas sûr qu'on a des solutions pour les échecs. Je pense que les problèmes qui sont NP complet puis NP difficile, l'idée, c'est qu'on est capable de démontrer s'ils sont, mais on a encore de la misère à trouver les solutions. Si on ne sait pas les échecs, on ne sait probablement pas le Go non plus.
Est-ce que toi, tu le sais, Edith?
Vite de même, non, je ne sais pas. Mais souvent aussi, le jeu de base peut ne pas être NP complet, mais sa généralisation peut l'être. Fait que supposons les échecs sur un board infini et peut-être NP complet.
Sur un board infini.
Oui.
Mettons, que t'es tanné de jouer aux échecs avec un board à 8, j'allais dire 8 dimensions, mais il n'y a pas 8 dimensions, il y a juste 8 de large. Il me semble que c'est 8, là. Je suis peut-être d'un patard.
Ouais, c'est 8.
Je lis un post sur un message board là-dessus, mais comme je comprends pas tout ce qu'il dit. Il dit que real chess is in P. Qu'est-ce qu'il veut dire par P? C'est polynomial.
C'est une autre classe de complexité.
OK, c'est ça. À cause
Puis
que
ça
en temps
juge.
polynomial.
Puis
OK.
c'est pour polynomial.
Ah.
Que c'est juste 8 par 8. Puis là, il
Fait que ça a
dit.
été démontré que les échecs, c'est résolvable d'une certaine manière, mais on ne l'a possiblement pas encore fait. Est-ce que c'est ça? Parce que les
Ouais.
problèmes, il me semble qu'ils sont faciles.
Parce que là, il dit Computing a perfect strategy for n fois n chess requires time exponential in n. Fait que c'est peut-être pour ça que. C'est
Ça nous
juste.
prend des bons
C'est
ordinateurs.
ça, c'est juste trop long.
On n'a pas encore
Ça fait
trouvé
partie
toutes les
d'un ordre
personnes.
de grandeur théoriquement possible. C'est pas comme si ça fait partie d'un ordre de grandeur difficilement attribuable.
Ah, il dit. Ben là, c'est sûr que c'est l'opinion de quelqu'un sur Quora, là. Mais il dit que les jeux que tu joues tout seul, comme Tetris ou Candy Crush, c'est beaucoup plus simple à résoudre. Puis c'est probablement NP. Parce que t'as pas deux personnes qui peuvent faire des moves complètement random en même temps. Intéressant, intéressant. Donc, bref, le Go. Ouais, ben on a encore. Il y a des
On
intelligences
devrait aller au
artificielles
bout.
qui essayent de battre les humains au Go, là. Fait que j'imagine que c'est pas résolu parce que sinon l'intelligence artificielle aurait gagné tout le temps.
Je sais pas, j'ai pas trop suivi toutes les histoires de deep learning pour
Ouais.
le Go. Je sais que ça a fait les nouvelles là, de façon très.
Mais je pense qu'ils gagnent pas tout le
Très.
temps, genre.
Ouais, je sais pas, j'ai pas tout suivi les histoires. Je joue principalement au Go justement parce que je trouve ça intéressant et je trouve ça amusant. Et j'ai aucune prétention à devenir. À m'améliorer. À m'améliorer, oui, mais comme je veux dire, à devenir compétitive, disons, au Go, j'ai aucune prétention à l'être.
Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans?
Au Go?
Ouais.
Ou. C'est une bonne question, je sais pas. Je pense que c'est juste y a une personne qui m'a montré à jouer voilà, plusieurs années, puis j'ai aimé le jeu. Puis j'aime le fait que les règles sont très simples, dans le sens où je peux expliquer les règles du jeu en quoi, genre 5 minutes, 20 minutes, quelque chose dans le genre, max. 20 minutes, c'est même trop long, là. Ça serait rentré. En 20 minutes, j'ai le temps de rentrer dans les détails de pointage, là. Mais les règles de base sont très simples, sont extrêmement limpides même, mais les conséquences des règles de base sont beaucoup plus complexes. Puis comme j'aime le fait que le jeu peut changer de bord n'importe quand, dans le sens où les pièces sur le board font en sorte que toi, t'es pas en position gagnante, mais tu joues un peu ailleurs, tu reviens plus tard, puis tu es capable de les sauver parce que le jeu a changé de bord. Ça fait un jeu qui est vivant d'une certaine façon. Ça, j'aime ça.
Puis, fait que là, on a parlé de l'aspect mathématique, on a parlé du NP complexe, mais récemment, tu as aussi commencé à faire des trucs plus philosophiques, on va dire. Ben, je pensais à la dernière affaire que tu as montrée à Dépotoir de recherche, là, où est-ce que c'était comme, qu'est-ce qui est un jeu, qu'est-ce qui est un langage de programmation, puis toutes ces
Ah,
affaires-là.
type. Oui. Ben, j'ai commencé à me poser des questions sur. Je veux dire, au début, je voulais faire. Je me suis dit, OK, on a des langages de programmation généraux, tu sais, dans le sens où ils font juste tout ce qu'un langage de programmation peut faire pour un ordinateur donné, etc. On est juste capable. C'est un langage de programmation général. Je me suis dit, on pourrait avoir des langages de programmation personnalisés. Dans le sens où il y a juste les choses que je veux, moi, qu'il y ait dans mon langage de programmation. Puis, je suis comme partie avec cette idée-là. Puis, en me posant la question de c'est quoi un langage de programmation personnalisé, je me suis aussi posé la question c'est quoi un langage de programmation, à partir de quel moment un langage général, comme naturel, là, un langage pour les êtres vivants, disons, et non pas pour les machines, devient un langage de programmation. Il y a toute la question des grammaires de Chomsky, etc., les grammaires formelles. Mais sans rentrer là-dedans, il y a aussi la question de à partir de quel moment un programme devient un langage de programmation, parce que n'importe quel programme informatique peut définir sa propre machine virtuelle. d'une certaine façon, n'importe quel programme mathématique et pas nécessairement un langage de programmation générale ou même un langage Turing complet. Mais n'importe quel programme informatique est un langage de programmation. C'est juste qu'il est possiblement très limité. Je pars un peu avec ces idées-là. Puis j'ai exploré ça. Ça, c'est pour Fleuve, pour le premier langage de programmation ésotérique que j'ai écrit. Je trouve que l'essai de
Ésotérique.
Fleuve est plus. Oui. Je trouve que l'essai qui accompagne Fleuve est plus intéressant que Fleuve comme tel. Mais
Ben,
Gage
peux-tu nous en
ésotérique, c'est le
parler?
vrai terme pour ces patentes-là. Il en existe plein.
Oui.
Ils ont chacun des rôles et des raisons d'exister différents.
Ben, je sais bien. Moi, je suis en train d'en apprendre un puis que j'aime beaucoup qui s'appelle Orca, qui sert à faire de la musique puis des séquenceurs. Puis c'est vraiment weird, mais c'est vraiment cool. Puis c'est étonnamment assez simple à apprendre, puis assez simple d'obtenir des résultats. Fait que c'est satisfaisant. Mais
Sinon, qu'est-ce qui se passe avec Fleuve exactement? J'avais lu un petit peu comment ça fonctionnait. Je sais que le langage n'est pas terminé de toute façon. C'est peut-être plus comme une preuve de concept, mais c'est quoi l'idée? Puis mettons qu'il serait fini un jour, qu'est-ce qu'on ferait avec ça?
Mais si ça finit un jour, ça serait plus comme une famille de langage, parce que mettons, moi, je pourrais avoir ma version de fleuve, mais comme toi, tu pourrais avoir ta version de fleuve, puis comme tout le monde pourrait avoir sa version de fleuve qui serait personnalisée. Ce serait comme des langages qui servent à décrire uniquement les choses dont tu as envie de parler. Comme par exemple, moi, dans ma version de fleuve, j'ai décidé que j'avais juste envie de parler de cours d'eau, de fleurs et de. Je pense que les fruits, les autres, ma mémoire est bonne. Puis c'est tout, c'est ça les titres de mes variables, c'est pas des chiffres, c'est pas des strings, c'est pas des ensembles ou des dictionnaires ou des listes comme en Python, c'est d'autres choses.
Tu peux
Fait
juste
pour
coder avec
moi,
des rivières.
je peux juste coder les rivières.
Ok. Comment c'est coder avec des rivières?
J'ai pas encore essayé.
Attends, fait que là tu fais des langages de programmation weird, mais tu les utilises même pas? Mais là, c'est quoi ce niaisage-là? Rien à redire là-dessus. OK, all right, elle s'assume, c'est correct.
Je le regarde, mais c'est juste du beau texte ésotérique pour moi, là, malheureusement. J'ai vraiment pas le background pour comprendre ce qui se passe. Fait que je suis juste comme. Mais je trouve ça beau un langage informatique parce que c'est organisé, ou en tout cas quand les gens l'organisent puis qu'ils mettent des enter, là. Mais ça fait plein de belles sections. Puis sur GitHub, il y a des couleurs en plus. Puis fait qu'il y a comme plein de langages que je connais pas. Puis entre parenthèses, il y a des choses qui font du sens, comme vérifions si cette fleur existe dans notre univers. Puis là, un langage très très technique, while value in, plein d'affaires, égale, input, égale. Est un mot réservé, recommencer en direct. C'est vraiment intéressant à lire pour quelqu'un qui est juste complètement, voyons, je cherche le mot pour quelqu'un qui est pas initié dans l'ésotérique, là.
Noob.
Un mot, en tout cas, un moldu, là. Mais cherche
Un
un vrai mot.
mordu.
Mais c'est vraiment super intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé tous tes jeux qui avaient rapport avec la rédaction de texte. Qu'est-ce qui t'a amené? Parce que là, on a parlé beaucoup de la visualisation. Puis là, tout d'un coup, tu as beaucoup de petits jeux qui sont en fait des excellents outils pour la rédaction de texte, puis pour l'inspiration, puis pour juste comme se partir à commencer à écrire. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Ça sort d'où? Je trouve ça super intéressant. Puis on dirait que j'ai de la misère à raccrocher ça au reste, mais il y a quand même des fonctions mathématiques, là. J'aime beaucoup l'éditeur Fibonacci. C'est vraiment très cool.
C'était quoi ça?
J'y vais où tu vas.
C'est celui qui prend une phrase puis qui prend mettons qui attribue un numéro à chaque mot de la phrase, selon son ordre dans la phrase, avec le premier mot c'est 0, le deuxième c'est 1, le deuxième c'est 2, etc. Et puis, je me suis mélangée dans mon ordre, mais vous comprenez, ça passe dans le beurre. Et puis quand quand elle interprète avec Fibonacci, ça va garder juste les mots dont le nom fait partie de la suite de Fibonacci.
Dans le fond, il
Est-ce que ça
assainit ta
fait du sens?
phrase. C'est vraiment comme un
Il
éditeur
enlève
qui est
il
comme.
enlève un paquet de mots, dans le
C'est
fond.
ça, c'est un éditeur qui fait comme oh, ça c'est
Ouais.
trop, ça c'est trop, mais selon une fonction mathématique, fait que c'est. Oh, c'est
Puis il
vraiment
fait.
intéressant.
J'espère qu'il fait pas ça plusieurs fois parce que sinon il va juste rester rien qu'un mot à la fin.
Ben, si tu recliques
Mais
plusieurs
c'est
fois, il va
possible
le
de
faire plus
replacer ton
tard.
travail sur la table de travail. Fait que oui, c'est possible de faire plusieurs fois.
J'ai beaucoup aimé
Mais
aussi
oui, pour la
et
question
oui.
sur. Oui, vas-y.
Ah non, mais c'est ça, j'ai remarqué là-dessus. J'ai beaucoup aimé aussi Six Circuits for This Millennium. Je trouvais que c'était un bon prompt pour justement se mettre à l'écriture. Fait que ouais, l'écriture, la rédaction.
Ben, j'ai toujours aimé écrire. Je trouve que c'est comme peut-être la version une des versions les plus minimalistes d'expression artistique. Minimaliste au sens des moyens qui sont nécessaires. Je veux dire, tu as besoin d'un papier, de crayon ou d'un ordinateur ou comme, mais ça finit là.
C'est accessible, ouais.
Puis après, tu peux créer tout ce que tu veux. Donc ça, j'aime ça. Puis j'avais commencé à m'intéresser au mouvement du type code as art, comme le code en tant qu'art pour lui-même, à la littérature numérique, puis à toutes sortes de médiums justement qui mélangent. Qui utilisent ou qui. C'est ça, qui utilisent la programmation et l'informatique pour la littérature. Puis. J'avais envie de jouer avec ces idées-là, de mettre mon grain de sel là-dedans. Et puis. Je me suis dit, j'avais envie de faire quelque chose qui soit vivant, qui soit interactif, puis pas que l'histoire soit interactive, mais vraiment de me concentrer sur l'acte d'écrire en tant qu'interaction. C'est ça qui m'a drivé, là, qui m'a inspiré pour ces jeux-là. Donc mon but, c'est vraiment de créer des outils informatiques puis d'encourager les gens à créer leurs propres outils informatiques pour comme prompt, comme source d'inspiration puis comme outil, plutôt comme outil interactif pour l'écriture. Je sais pas si ça fait du sens.
Oui, ça fait du sens. J'aurais aimé ça à la fin des six circuits d'avoir comme un résumé de genre voici toutes tes réponses puis de le
Oui.
garder là, ça aurait été cool. Mais non, mais ça m'a surpris à quel point au début j'étais comme ok, je sais pas, je sais pas qu'est-ce que j'écris. Puis après une coupe de circuits, j'ai ok. On y va. Genre, ça a vraiment fonctionné pour. Genre, juste comme. Parce que des fois, quand t'écris, c'est juste. Ben, tu sais, on dit que le plus difficile, c'est la première ligne. Là. Le plus difficile, c'est commencer, tu sais. Puis c'est ça, je trouvais ça intéressant comme outil parce que ça te force à mettre les mains sur le clavier. Puis à un moment donné, tes mains vont juste fonctionner toutes seules. Puis, ouais, bon, je trouvais que c'était un très chouette outil. Puis c'est juste intéressant, là, les outils, le Random Cursor Game.
Ah, oh, ça, c'est terrible.
Mais
Oh, c'est drôle.
je suis sûre que
C'est insupportable.
ça peut vraiment donner des trucs intéressants là. Si tu fais juste comme te laisser aller puis essayer d'écrire ou tu sais être têtu puis essayer d'écrire un texte. Plus dans le fond il est scrambled là.
C'est un générateur de fautes.
Je pense que le mieux que tu peux faire, si tu veux quelque chose d'un petit peu intelligible, c'est d'essayer d'écrire beaucoup de mots composés avec des préfixes, puis des suffixes, puis des différentes parties. Puis là, tu écris toutes sortes de mots comme ça, et à un moment donné, ça devient un peu autogénératif, comme ça, le curseur tombera pas tout le temps, ou en tout cas pas souvent à la bonne place, mais tu vas avoir une moitié de mots avec une autre moitié de mots, puis... Ça va finir par s'enligner. Puis peut-être que une chose qui peut être faite, c'est de ne pas mettre d'espace, puis après ça, choisir les espaces avec l'espèce de bloc que tu as fait.
Aïe aïe.
Wow.
Ça va être la job. Mais
Mais
ouais, c'est
je pense que
des.
c'est des expériences qui méritent une espèce d'acte curatif. Je pense que c'est ça le fil directeur pour les œuvres qu'on a discutées aujourd'hui, c'est que l'ordinateur fait toutes sortes de choses. Et si on veut que ça soit un petit peu plus intelligible, nous, on peut justement, bon, choisir les espaces, mais après coup. On pourrait, si on a un générateur de règles de jeu NP complet, ben, on pourrait choisir nos meilleurs ensembles de règles. On peut superviser le processus après. Ou juste s'en servir comme inspiration. L'idée, c'est que je pense que les limites dans la vie, ça favorise la créativité. Quand tu commences avec une page blanche, ben, tu n'as pas de limite, tu ne sais pas quoi faire. Mais si quelque chose te pose une question, te demande ah ben, choisis un objet, choisis une émotion, nécessairement, tu vas faire quelque chose, puis ça va allumer ta créativité.
Justement, pour résoudre le problème de la page blanche, puis d'Anne-Marie, qu'est-ce que tu disais tantôt de dire, ah, le plus dur, c'est d'écrire la première phrase. Moi, j'en ferais un bidule d'aide à l'écriture de texte, que c'est genre, faut que t'écrives, mettons que t'ouvres Word ou ton logiciel de texte, puis là, faut que t'écrives un minimum de temps de phrases, mettons, je sais pas, faut que t'écrives, mettons, 10 phrases, pendant au moins 3 minutes. Puis là, tout ce que tu écris va se faire bouffer puis effacer au fur et à mesure. Puis là, quand tu as assez écrit, là il garde qu'est-ce que tu écris pour de vrai. Fait que comme dans le fond, c'est comme quand tu veux commencer à écrire, ben là, faut que tu fasses sortir le jus avant. Puis là, quand t'as assez fait de sortir de jus, là, il dit, OK, maintenant, t'as le droit de commencer. Comme quand tu fais un dessin, puis que, genre, au début, tu commences à juste te soigner à la main pour comme quasiment t'exercer les muscles de doigts.
Je sais pas, parce que je trouve qu'il y a de la valeur dans les premiers drafts, puis dans les brouillons, là. Je trouve qu'il y a de la valeur de revenir après, puis de faire comme Blobby dit, d'aller éditer, là. D'aller faire ta propre curation. Mais c'est intéressant, en fait, ça m'amène au dernier, je pense, petit exercice de rédaction dans tes projets, qui est le racing circuit. Parce que justement, comme tu dis, Narf, quelque chose qui te force à écrire dans un temps donné, là, ben c'est ça, je pense que c'est 20 secondes les intervalles. En fait, t'as 20 secondes pour écrire de quoi? Après ça, 20 secondes pour contempler ton œuvre, puis t'as pas le droit d'écrire. Puis après ça, 20 secondes pour écrire de quoi, puis ça va par intervalle de 20 secondes. Puis je trouve ça intéressant parce que, justement, le syndrome de la page blanche, il y a moyen d'être jamais devant ta page blanche pendant vraiment longtemps. Mais là, d'un coup, que ça m'a dit, t'as 20 secondes, j'ai fait genre, ah! Faut que j'écrive! Faut que j'écrive là, là! Est-ce que t'as 20 secondes, puis tu le vois, tick down, tu sais? Fait que, puis c'est ça, je pense que l'intérêt des outils comme ça que je trouve chouette, c'est que justement, tu y vas plus avec la quantité de rédaction qu'avec la qualité, mais ça te fait écrire, puis plus on écrit, puis plus on écrit bien. Puis tu peux revenir puis faire de la curation après de toute façon, fait que c'est pas grave si tu fais juste comme, au début, juste vomir ce qui te passe par la tête sur la page. Au pire, tu le garderas pas, mais tu peux le conserver après, fait que... Non, j'aime ça, je trouve ça super intéressant.
Merci, je suis contente de te l'entendre dire. C'est le premier circuit que j'ai fait, c'est celui-là en fait, c'est celui par intervalle. Parce que j'étais comme, je l'ai appelé par intervalle parce que c'est inspiré du monde de la course, ou est-ce que c'est
Oui.
vraiment,
Oui,
ou
je fais
pour,
comme les trainings, là. Ouais.
ouais. Fait que dans la course justement, une des pratiques, la course par intervalle, ça va être de, disons, courir un certain rythme pendant 5 minutes, ensuite courir très rapidement pendant 30 secondes, ensuite marcher et recommencer.
C'est tellement pas un
L'idée,
complexe.
c'est la même.
Ouais, c'est tellement pas un concept qu'on applique à quelque chose comme écrire. C'est pour ça que c'est très cool.
Ah, mais moi, j'ai une bonne expérience en la matière parce que, comme, il y a une de nos affaires qu'on utilise à job que, genre, c'est rendu tellement compliqué puis gros que ça lag full quand on écrit. Fait que, comme, mettons, faut que je copie des chiffres de Excel à cette affaire-là, puis là, je les rentre. Mais ça lag tellement que, genre, les chiffres apparaissent comme Un autre.
Oh boy.
J'ai comme un chiffre par seconde, un chiffre par 2 secondes. Fait que moi, j'ai écrit tout ça, puis là, j'attends. Puis là, je vois mes chiffres apparaître dans la boîte de texte. Un par un, très lentement. Et c'est absolument insupportable et frustrant. Comme... Mais j'imagine que c'est ce genre d'expérience. C'est une expérience. C'est une... Peut-être que au lieu de me fâcher contre cette bébelle-là, peut-être que je devrais juste apprendre à être zen et faire comme genre, ah oh non, mais c'est une manière de rentrer les chiffres pour vraiment que je réfléchisse à mes chiffres avant de les rentrer parce que comme ça prend 10 minutes. Sinon. Ouais.
C'est pour ça que les jeux vidéo, c'est de l'art.
Oui, je suis sûr que notre éditeur de variables, c'est de l'art.
C'est tellement pas instinctif, parce que, en tout cas, personnellement, moi, quand je tape sur l'ordinateur, j'y vais avec la quantité over la qualité, puis après ça, je reviens corriger, là. Fait que je fais juste comme vomir genre des caractères le plus vite possible, puis après ça constamment revenir en arrière pour juste comme écrire, puis faire tout le temps comme backspace, puis écrire comme le nombre de caractères que je tape versus le nombre de caractères qu'il y a sur le fichier Word à la fin ne sont vraiment vraiment pas reliés, sauf que là c'est ça dans ton cruncher de variables, j'ai pas trop compris c'est quoi, ben là t'es comme obligé de mettre de l'intention derrière chaque chose que tu tapes. C'est intéressant, c'est quand même. C'est vraiment un concept inhabituel. Peut-être parce qu'on est habitué à la surabondance qu'on peut faire.
Je pense pas que j'ai essayé ça. Cruncher de variable.
Je sais pas compris c'était quoi le gugu.
Ouais, c'est ça, on parle de quel projet exactement?
Non, je parle de ce que Narf venait de dire là. À sa
ah,
job,
okay,
là,
ouais.
Le truc qui
ah,
pouvait
ah,
être.
Ah mon dieu!
Ok, excusez.
On
pensait
que
non, mais
jeu
ça s'appelait. En tout cas, la chose que t'avais à dire, j'ai pas compris comment ça s'appelait.
Okay. Ça n'a pas de nom, là. C'est l'affaire qu'il faut rentrer les chiffres dedans qui lag comme le. Ouais.
Mais c'est une réflexion ouais. Intéressante sur l'intentionnalité derrière. Chaque.
Ah, c'est une réflexion intéressante
chaque
sur je vais me tirer une balle. C'est ça la réflexion.
C'est zen.
Est-ce que je me tire une balle ou je considère plus l'option du poison exotique?
Mais
ou
tu
je
vois...
vais juste me prendre un couteau? Qu'est-ce que je.
Pour revenir au jeu, là, ça fait plusieurs fois qu'on en parle puis j'oublie tout le temps le nom de ce fichu jeu-là. Là. Mais tu sais, le jeu qui est comme. Un espèce de Zelda top-down 2D que t'as le droit de faire un move par jour, là. Moi, c'est un peu comme ça que je me sens par rapport à ce jeu-là.
Ah, tu parles de...
Je me rappelle
pas. Je sais de quoi tu parles.
Oui,
Bruno,
c'est toi qui
parles
de ça. Il l'a fini.
Ça prend genre 1 an, je pense, pour le jeu au complet. Oui, t'as le droit de bouger de une case par jour, puis effectivement, des fois, tu te trompes. Puis là, tu fais comme, ah, shit, je me suis trompé de barre. Fait que là... Non seulement t'es revenu en arrière, mais ça veut dire que demain, tu vas juste pouvoir retourner à où est-ce que t'étais.
C'est comme si tu jouais à Link to the Past avec une case par jour et ça va être long, hein?
Ça prenait, mettons, une centaine
une
ou 200 mouvements là, pour aller
je
visiter
pas
tout
ce randomizer, là.
Le speedrun, ça a l'air de quoi?
Ben,
ça prend 1 an.
2 ans.
Ah non, c'est ça,
pas
le speedrun.
Un verre d'eau.
Au lieu de prendre.
Tu restes assis avec ta manette.
Au lieu de prendre 365 jours, le speedrun, il en prend peut-être comme 352.
Mais l'affaire, c'est que à chaque fois que tu réouvres le jeu, tu revois depuis le début, ça rejoue tout ce que t'as fait depuis le début.
Ah, c'est cool ça.
Puis quand. Tu sais, faut que t'ailles comme explorer puis de voir comme les images. Fait que, pis il va te remontrer chaque image quand ton bonhomme y arrive dessus. Là, tu revois l'image, puis ainsi de suite. Puis quand il est prêt, là, il attend ton input. Là, tu fais un input, et là, le bonhomme, il s'assoit, puis il médite. Jusqu'à demain.
Les speedrunners, quand ça fait ça au début, que ça te montre tout, sont comme « Ah, ça, c'est un autoscroller, on peut le skipper. » Ils le regardent pas. Pour aller un petit peu plus vite. En fait, ça va pas plus vite, sauf la dernière journée.
Ouais.
Je sais pas comment le jeu s'appelle, mais ça va être genre à
Je
minuit
l'ai
ou...
trouvé. Ça s'appelle Vesper 5 ou Vesper 5 ou Vespers, puis le 5, le S c'est un 5. Je sais parce que ce jeu-là m'avait inspiré mon jeu Light Game,
Oh.
qui générait une image différente à chaque 5 minutes. Et quand l'image, quand tous les petits carrés sont remplis, là, tu peux cliquer et passer au level suivant. Puis là, il y a plus de petits carrés. Fait que ça va être encore plus long. Puis ça prend beaucoup de patience. Et j'avais écrit dans mes inspirations, j'avais écrit genre Vaguely inspired by Vesper 5 and by my new lava lamp. Ma lava lamp qui est ici, juste là, que j'allume tous les jours, que j'adore.
Est-ce que ça va pendant 5 minutes?
Non, là, je la laisse allumer plus longtemps parce qu'une lava lamp, je sais pas si t'en as déjà eu ou vu, mais comme ça prend du temps avant de comme s'activer. Tu l'allumes, puis au début, ça fait rien pendant genre 15 minutes comme faut. Là. Puis à un moment donné, ça explose en jus, puis là, ça fait une
C'est
belle
un Eldritch Horror pendant 5 minutes, là.
Puis là, après ça, ça refond, puis là, ça se met à faire les bulles qu'on connaît bien.
Alright,
Mais
y'a-t-il quelque
là,
chose que vous voulez?
je voulais aussi
Ouais.
parler de d'une autre affaire que tu avais montrée dans à Dépotoir de recherche récemment à propos de les comme l'ensemble de toutes les possibilités. Je me souviens plus c'était quoi, mais ça m'a comme vraiment garoché dans ma tête. Puis là, j'étais rendu un peu perdu, fait que j'ai pas tout écouté qu'est-ce que tu disais. Mais comme, je pense que t'as parlé de comme une affaire qui... Il y avait comme... Il y avait toutes les choses possibles d'être... Il y avait tous les livres possibles dans une librairie virtuelle. C'est comme, ben, toutes les combinaisons de lettres possibles sont toutes là, puis sont toutes... Fait comme, tous les livres ont déjà été écrits. Je sais pas si tu... Je t'ouvre la porte pour que tu nous en parles un petit peu mieux que moi, qui t'en souviens pas vraiment. Mais c'était quoi? T'avais, il me semble que c'était inspiré par quelque chose que t'avais vu. C'était quoi?
Je ne me rappelle pas comment j'étais arrivée à en parler. Je pense que c'est parce que je parlais du Italo Calvino puis de l'Oulipo, si ma mémoire est bonne, mais je suis pas certaine. Mais le truc dont tu parles, c'est la librairie de Babel par Borges, un écrivain argentin.
Oui.
Puis, ça donne un peu juste ça. Mais c'est ça, c'est une bibliothèque dans laquelle il y a tous les livres qui ont jamais été écrits, qui seront jamais écrits, qui peuvent jamais être écrits. Puis c'est l'histoire de comme les gens qui vivent dans cette bibliothèque-là puis qui cherchent le livre qui décrit leur vie ou quelque chose genre. C'est vraiment très bon. Ça fait longtemps que je l'ai lu exactement,
Wow.
mais comme j'aime beaucoup Borges, ceci étant dit, du moins son œuvre littéraire. Je la trouve très inspirante. Puis il y a un centre de recherche, entre autres sur la littérature numérique, mais pas juste sur la littérature numérique, qui ont un projet super intéressant qui s'appelle Archiver le présent. Je pense que l'adresse est archiverleprésent.org, si ma mémoire est bonne. C'est un centre de recherche, je pense, qui sont basés principalement à l'UQAM, en fait, à l'Université du Québec à Montréal. Et puis, eux, ils s'intéressent à l'esthétique de l'exhaustivité en art en général. Ils ont toutes sortes, ils ont une collection, ils ont toutes sortes de projets, justement, sur des projets artistiques où la personne qui crée le projet s'est dit, bon, mais moi, je vais faire toutes les versions possibles de ce projet-là. Comme il y avait un peintre dont j'oublie tout le temps le nom, c'est vraiment une honte. Que je trouve que son travail est vraiment inspirant, puis ça va nous ramener à l'écriture. D'une façon, vous allez voir, surprise. Qui lui, un jour, s'est dit, je vais juste peindre tous les chiffres. Et je
Tout.
pense qu'il a peint les
C'est un
chiffres.
projet.
Il a commencé à 0 ou à 1, j'imagine, puis il s'est arrêté à, j'ai oublié combien, mais comme beaucoup. J'ai peint pendant des années sur des chiffres, sur différents canevas. Puis c'est ça son œuvre. Puis il a dit un truc qui m'a vraiment marqué quand je l'ai lu et qui me fait encore beaucoup réfléchir, c'est que il aurait pu faire ce projet-là en tant qu'écrivain. Il aurait pu faire ce projet-là comme Borges, c'est-à-dire juste dire, eh, voici, il existe toutes les peintures sur lesquelles il y a un écrivain qui a fait ces peintures, un peintre qui a fait ces peintures-là, et comme elles existent dans cet univers-là. À la place, il le fait. C'est là toute la portée artistique, toute sa démarche artistique, et dans le fait qu'à la place de le décrire, il a fait l'acte de peinturer tous les chiffres. J'étais comme, ah, c'est vrai, il y a une différence. Je ne saurais pas c'est quoi la bonne terminologie pour décrire cette différence-là. L'adjectif me manque. Mais, autant tantôt, je disais que quand on écrit, on peut tout créer avec l'écriture. En même temps, à part si on est genre dans une histoire sans fin, ces mondes-là existent sur papier. Et décider de faire vivre, ce qui n'est pas toujours désirable, là, par ailleurs, c'est pas tous les livres que j'aimerais qu'ils existent pour de vrai, disons. Mais pour les livres qu'on aimerait qu'ils existent pour de vrai, c'est une autre histoire.
Il l'a concrétisé dans le fond, au lieu de le théoriser là.
Ben, il y a eu plusieurs artistes qui ont fait des trucs de même, mais tu sais, qui ont fait des trucs répétitifs que tu te dis genre, OK, mais pourquoi? Mais là, lui, c'est genre, il y avait même la séquence de prévu, tu sais, comme je me souviens, mettons, à, il me semble, c'est Van Gogh qui a peint la même meule de foin pendant 3 semaines ou 3 jours, puis à toutes les heures, ou en tout cas, il refaisait la même peinture tout le temps, puis à un moment donné, tu fais comme, OK, mais elles sont quand même toutes différentes. Mais il n'y avait pas comme. Tu sais, il aurait pu en faire plus, il aurait pu en faire moins. Il n'y avait pas, genre, une logique particulière. Mais il y a eu aussi des artistes qui ont fait des trucs comme. Il me semble qu'il y avait un gars qui. Il écrivait un roman, mais il avait juste le droit d'écrire un mot par jour. Puis là, il a fait ça pendant
Ah,
une couple
c'est intéressant.
d'années. Puis là, à un moment donné, il a fait. Puis là, c'est comme. Ça finit. Fait que c'est pas très long, évidemment, parce qu'un mot par jour, tu vas pas très loin. Ou une phrase par jour, là, une affaire de même, là, comme quelque chose dans ce genre-là. Puis je pense qu'il n'y avait pas le droit de revenir en arrière pour l'éditer, sinon ça défaitait un peu de purpose. Mais ouais. Ou ben, je me souviens, le gars qui à chaque semaine, je pense, envoyait un livre à George Bush dans le temps qu'il était président.
Ah, par la poste, ça me dit de quoi ça?
Ouais, je pense. Il envoyait un livre
Il choisissait un
à chaque
livre,
semaine.
ouais.
Puis ben, il a jamais reçu de réponse parce que ça a l'air que George Bush, il s'en calissait des livres.
Ben là,
Mais il a
c'est
fait
des
un
gros
blog
livres.
pour dire genre ben voici la liste de toutes les lectures que j'ai recommandées à George W. Bush entre telle date et telle date.
Et ça, c'est intéressant parce que c'est comme des méta-œuvres. Tu sais, mettons, si on revient à l'artiste qui peint des chiffres, là, comme chaque peinture peut être, oui, intéressante, mais l'idée, c'est de regarder l'œuvre dans son ensemble.
Ça prend beaucoup de place dans ta maison si tu veux avoir l'œuvre complète.
On
Est-ce que
fait
tu
une
sais si
galerie.
c'était très gros? C'était gros comment ces peintures?
J'ai oublié, les
Ah.
détails exacts des peintures sont sur le site de recherche de l'UQAM, sur la page Wikipédia aussi de l'artiste, là. Mais j'ai oublié. Je suis désolée.
Je me demande si ça variait over time parce qu'il a commencé sur des petites toiles puis il finissait sur des très grosses toiles. Est-ce que, genre, c'est j'ai plein de questions. D'ailleurs, il y a un des trucs que j'avais, parce que tu as parlé de Borges, je savais pas que ça se prononçait comme ça. Mais j'avais déjà parlé au podcast, v'là à peu près, v'là longtemps, de Studio 100 Rabbits qui ont fait un livre qui s'appelait Thousand Rooms, que. c'est inspiré de la nouvelle ou de l'histoire, en tout cas de la librairie, comme, je me souviens plus comment tu l'as appelé, là, la librairie
Babel.
Babel. Puis là, maintenant que je comprends mieux c'est quoi la librairie, parce que je me souviens de l'avoir lu Thousand Rooms, puis d'avoir rien compris. C'est un livre pour enfants, je l'ai lu, j'ai fait c'est intéressant, mais je ne comprends rien du tout. C'est comme il y a des animaux, il y a un chat, un renard, une chauve-souris, puis là il ouvre un bureau, puis il observe la pièce, puis il mange, il défend le bureau, ou il graphine, ou whatever. Puis je suis comme d'accord, mais c'est quoi le lien avec Borges? Et surtout, c'est qui ça, Borges, et qu'est-ce qu'il fout pour que ça a le rapport? Fait que là, j'avais parlé avec les créateurs et ils m'ont dit, genre, faut que t'ailles lire ça. Puis j'ai pas tout lu. Fait que... Mais là, tu viens de l'expliquer. Puis je comprends mieux. L'affaire de infini de pièces avec infini de livres, qui a tous les livres dedans. Maintenant, il faudrait que j'aille lire Thousand Rooms. C'est un petit peu moins qu'infini, mais c'était bon. Si ça vous intéresse, c'est 100 Rabbit. Non, 100 Rabbits sur itch.io qui font ça. Ça coûte 5 $ pour des PDF.
J'ai trouvé l'artiste pour les chiffres, donc j'ai mis le lien dans le chat. C'est Roman Opalka. Puis on peut voir un exemple de ses peintures. Il a commencé à peindre sur fond noir à partir de 1972, puis à chaque nouvelle toile, il ajoutait 1% de blanc dans son fond. Fait que tu peux voir la temporalité de toutes ses œuvres parce que chaque toile a 1% de blanc de plus dans le background. Ça crée vraiment quelque chose qui est encore plus intéressant à regarder au point de vue méta. Puis c'est ça, en
Ah, il écrivait
2008.
quand même plusieurs chiffres par toile. Je
Ouais.
pensais qu'il écrivait un seul chiffre par toile.
Fait que
Puis
de
j'étais comme, il s'est
1972 à
rendu à 5
2008.
millions. C'est long, ça.
Ouais.
5 millions. De...
Fait qu'il est rendu en blanc sur blanc,
Ça va pas bien, ça.
là.
Mais ça me fait beaucoup penser à Light Game.
Ça y est, plus 40 ans! Genre, 36 ans.
Light Game, Camille, elle l'a fini en
Ah
cheatant,
ouais.
en changeant les valeurs du CSS pour pouvoir
Ah!
mieux augmenter le contraste, pour pouvoir voir mieux.
Camille.
Puis là, j'étais comme, Camille, t'as comme pas compris. Elle était comme, oui, mais là, c'est trop pâle,
Cheating!
là, on voit pas. Je suis comme,
Elle a pas tort.
OK, c'est vrai, mais. Puis là, elle a changé le contraste. Puis là, à un moment donné, même en mettant le contraste au maximum, ça faisait quand même blanc sur blanc. Puis là, elle était pas contente. Puis j'étais comme, Camille, tu t'es rendu comme 4 levels de plus que ce que t'es supposé, mais d'accord. C'était une expérience.
Mais c'est ça qui est
Ça me
fun.
fait penser aux gens qui ont décidé de faire générer toutes les mélodies de 8 notes possibles avec, avec, je pense, la gamme diatonique. Ils les ont toutes faites générer, puis toutes faites enregistrer sur un disque dur, puis après ça, sont allés les faire copyrighter. Fait que là, il y avait les droits sur toutes les mélodies du monde. Puis après ça, ils ont décidé de mettre ça dans le domaine public. Fait que toutes les mélodies du monde sont légales à utiliser parce qu'elles sont à eux puis sont offertes à tout le monde.
C'est ça qui est fou avec la génération algorithmique, I guess, là, la génération automatique de contenu, là, c'est que les droits d'auteur, là, ça va devenir compliqué. Parce qu'à un moment donné, un algorithme va générer quelque chose qu'un humain a déjà créé aussi, hein. Fait que c'est toutes des belles réflexions pour le futur.
Je veux dire, c'est là que tu vois que les lois de copyright, c'est de la grosse bullshit. Puis je pense que c'était ça le but du projet des mélodies à 8 notes, de
Ouais,
toutes
c'est
les
ça.
mélodies à 8 notes, parce que c'est comme genre, regardez là, vos lois, c'est de la merde, ça fait des années qu'on le sait, puis il y a juste les gros riches, les studios de riches qui sont capables de s'en servir, parce que toutes les autres sont genre incapables de se payer les avocats nécessaires pour prouver que. Fait que tous les petits artistes crèvent faim, et j'ai envie de dire les minorités ethniques, et ben ils se font avoir, puis ouais.
Mais plus maintenant, parce que toutes les mélodies sont safe.
En théorie, mais la
Ouais, en
règle est
théorie.
quand même que ça te prend un bon avocat pour pouvoir le prouver, puis blablabla.
Effectivement.
Puis là, l'avocat de la défense va être comme genre, ouais, mais nous, notre mélodie, elle a 9 notes. Ah, fait que non. Ce n'est pas la même mélodie, elle a 9 notes. Fait
Ouais.
que
Je
je
suis pas
pense
capable de trouver un
qu'on a
segway
fait
là.
le tour
Je
pas
m'excuse.
mal. On change de sujet beaucoup, mais c'est parce que c'est très inspirant les choses que tu nous
Oui.
dis.
Mais c'est ça, je sais pas si. Comme je sais pas là,
Non,
je.
on n'a pas parlé de ces jeux de la semaine. Je pensais que c'est là qu'on arrivait.
Oui, on peut.
Ces jeux de la semaine, ces jeux de la vie.
Je suis juste pognée dans la réflexion que genre, est-ce que c'est ça un jeu? Ça a genre provoqué une discussion. Comme. C'est des jeux, ça.
C'est-à-dire?
Je sais pas. Je me demande, est-ce que c'est ça la valeur, dans le fond, de ce que t'as créé? C'est que ça fait que on l'a tout expérimenté, puis ensuite on peut s'en parler ensemble. Je sais pas. Je réfléchis, là. Je suis pris dans. Vous pouvez continuer.
C'est un podcast très spécial ce soir parce que en plus du gros délai fatigant de Discord qui rend la conversation un peu awkward, en plus de ça, on est dans notre tête à réfléchir, genre oh. Puis là, ah oui, shit, c'est vrai, on fait un podcast, il faudrait, ce serait le temps de poser une autre question.
Oui, c'est vrai, faut que je parle.
Ouais, là, faut
Une
que tu
chance qu'on est
parles
plusieurs.
plus.
C'est l'avantage d'être plusieurs.
Puis sinon, en fait, là, je serais curieux d'élargir la question. C'est comme, bon, là, ça, c'était tout ton parcours, puis je suis sûr on en a oublié plein, là, parce que tu en as fait des dizaines et des dizaines de projets. Mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans le futur de Financialist? Est-ce que tu as des
Ben,
idées qui
je. Oui.
t'inspirent? Est-ce que vers quoi tu penses t'en aller bientôt? Ou pas bientôt?
J'ai commencé cette année à. J'ai un peu mis de côté les questions de faire des œuvres à partir de données, soit de la signification de la donnée ou d'autres types d'œuvres à partir de données, pour vraiment revenir au concept de base. Comme cette année, je me suis dit que j'allais explorer la question, c'est quoi un marché en fait? Comme fondamentalement, c'est quoi les critères de base pour que quelque chose soit considéré comme un marché?
Wow, ça
Est-ce qu'il faut
m'intrigue un peu,
nécessairement un
ça.
lieu?
Ouais, c'est un problème
Est-ce qu'il faut
NP complexe?
nécessairement...
Ça prend combien de
Ça
gens?
prend un lieu complet.
À partir de
Ben...
combien de gens est-ce que tu as un marché?
Est-ce que tu as besoin d'avoir juste un échange et deux personnes pour avoir un marché? Est-ce que c'est ça? C'est quoi le plus petit marché possible?
Ah, non, mais c'est intéressant, ça.
Puis, je
Hey.
me pose aussi les questions de comment utiliser un marché ou comment créer des outils de création qui prennent le marché comme médium. Dans le sens où le marché devient un outil incontournable de création. C'est aussi des questions qui m'intéressent, là.
T'as-tu suivi l'histoire avec GameStop, puis les actions de GameStop, puis ce qui s'est passé voilà, à peu près un mois?
Tant qu'à parler de marché,
J'ai pas encore pris ma fin de semaine pour tout lire sur le sujet, fait que j'ai toujours pas d'opinion.
Ok.
C'est pas...
Mais
Ouais.
je suis sûr que si t'étais intéressé par les marchés, je crois que t'as de la matière là-dedans, là. Il s'est passé des choses.
Mais ça serait cool d'en faire une représentation artistique, par exemple. Je suis sûr qu'il y a plein de. Il y a plein de données qui vont être intéressantes à représenter. Surtout que là, la vague est finie un peu, là. Comme, je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, mais en tout cas, je pense que le moment est terminé. Fait que là, on peut de loin observer ce qui s'est passé, là. On peut prendre du recul, là.
J'avoue que je ne sais pas.
Ouais, de
Ouais.
ce que je vois, les gens continuent de tenir à leurs actions.
Ah ouais.
J'ai pas regardé exactement où l'action s'en va, mais les gens, dans le fond, ils voulaient acheter plein de parts de GameStop pour que l'espèce de fonds d'investissement, finalement, perdre de l'argent sur le long terme. Et tant que personne vend, les actions baissent pas énormément de valeur. Je veux dire, oui, il y a des fluctuations, là, ça, c'est des trucs qui se passent de toute façon, mais fonctionnellement, si tous les petits utilisateurs individuels gardent leurs actions et continuent d'en prendre quand ils sont capables.
Ouais, mais c'est fini, là, genre le deadline est passé. Fait que je pense que ça c'était supposé retomber. Mais en tout cas, on s'éloigne de notre sujet, dans le fond.
Puis on parle de quelque
Je pense que
chose
les
qu'on
gens
sait vraiment
continuent
pas.
de tenir à leurs actions.
Ah ben.
Parce que là, parce que tu parlais des marchés, comme c'est ça tes projets pour le futur?
Oui, c'est ça mes projets pour le futur.
C'est des marchés. Est-ce que tu magasines au marché Jean Talon ou un autre marché de fruits et légumes? Est-ce que ça, c'est un
Ça fait
marché?
longtemps parce que là, c'est l'hiver.
C'est encore ouvert. On y va avec mon frère de
C'est
temps en
ouvert,
temps.
mais comme il y a beaucoup moins d'activité.
Oui,
Et
définitivement.
aussi, il fait froid pour s'y rendre, puis être dehors quand il fait froid, etc.
Parle-moi-en pas. Y a-tu de quoi de pire
Mais
que de
ouais.
transporter le chariot de grand-mère dans un banc de neige?
Le
Fait
transporter dans deux bandes de
que...
neige.
Merci, Blob. Mais donc, si on revient à ce qu'on disait, les marchés, ça c'est ta nouvelle passion. Fait qu'on peut s'attendre à des jeux de marché bientôt, là.
Peut-être, je sais pas. Comme c'est quand même complexe à implémenter un marché pour au niveau des interactions entre le serveur et le client, là, ça pose à poser beaucoup de questions sur c'est quoi le temps dans les bases de données. Puis là, c'est à partir du moment où tu poses des questions sur le temps dans les bases de données, tu sais que t'en as pour trois doctorats.
Oh my god! J'allais dire, est-ce que tu connais le jeu? C'est quoi déjà le fucking nom de ce jeu-là que j'oublie tout le temps?
Ben c'est ça, je me
C'est
dis
quoi?
d'avoir des
Le jeu
jeux
de
qui sont.
programmation,
Il doit y avoir
là?
des
Non,
jeux qui sont
non, non.
exclusivement des marchés.
Oui, le jeu, j'en ai parlé au podcast plein de fois. C'est un jeu, ça se passe sur Mars. C'est pas Terraforming Mars. C'est Off-World Trading
Ouais.
Company. Est-ce que tu as entendu parler?
C'est-tu juste du commerce, ce jeu-là?
C'est pas mal juste du
Ok.
commerce. C'est comme tu places un peu des buildings, mais
Ouais,
pas
c'est ça.
beaucoup.
Ok.
Parce que ton nombre de territoires est très limité. Fait que tu peux pas, tu sais, tu places comme sur la game au complet, tu vas placer, je sais pas, une douzaine, une quinzaine, peut-être 20. Je sais pas si la game dure longtemps. T'as 20 buildings à des endroits que tu peux pas vraiment te déplacer. Puis, fait que c'est genre, c'est ça. Mais après ça, tout ce que tu fais, c'est genre, tu sais, genre, je produis ça, je remplace mon usine de charbon par une filtration d'eau pour produire de l'eau en grande quantité pour saturer le marché, faire crasher la bourse, puis faire plein d'argent.
Puis tu peux jouer en multijoueur, là. Fait que tu peux justement faire crasher les marchés de tes amis.
Ouais, parce que le jeu, c'est littéralement quand tu vends quelque chose, tu le vends à ceux qui l'achètent.
Ça doit être intéressant parce que ça aussi, il doit y avoir une solution optimale pour torcher dans ce jeu-là. Puis elle doit être d'une
Non.
complexité, là.
Tout ce que je sais, c'est que je me fais toujours planter par le computer à médium. Fait qu'il y a quatre niveaux de difficulté en haut. Fait que, ouais.
Ouais, c'est optimal.
J'ai passé l'âge de jouer à Very Easy, Easy, Medium Easy, puis là je pense que je suis rendu à Normal, puis là c'est comme Nope, ça marche plus. Puis on a joué avec mon frère, puis on se faisait laver à chaque fois par les computers. Fait que, ouais. Off-World Trading Company. Un jeu qui a un marché. Mais je te dirais que ma stratégie à moi et à mon frère n'a pas très bien marché. Sinon, parlant de jeux vidéo, tu nous disais avant le podcast que tu jouais à des jeux. En dehors de tous les nombreux projets que tu fais, ça t'arrive d'avoir un peu de temps de jouer à des jeux vidéo?
Oui, il faut. Il faut se divertir dans la vie.
Ben oui.
Et c'est quoi les divertissements dont tu aimerais nous parler? Moi, j'étais très intrigué par Super Mario World et ta tradition.
Depuis plusieurs années, je joue à Super Mario World. Je le finis à chaque année
Au
en temps des
complet.
fêtes. Je suis juste comme au complet. Faut que j'aie mes 96 étoiles.
Et
Mais
ok,
je ne l'ai pas
bon.
fait cette année.
Ouais, mais cette année,
Je suis
c'était la
triste.
COVID, là. Fait que
Je suis triste.
tout est pas pareil. Tout marche. Y a plus rien qui marche.
Mais j'avais hâte. J'étais comme, ah, ça va être comme rassurant, réconfortant, je ne sais pas. Mais je ne l'ai pas fait.
Y a-t-il une raison particulière, tu penses, ou juste c'est la COVID
Pour
cette année, c'est
de vrai,
pour
je
ça?
pense que je suis comme. J'ai voulu le finir sur le Super Nintendo Mini que j'ai acheté. Puis, il y a un délai qui est différent
Oh, ouais.
de la Super Nintendo originale, puis c'est frustrant quand t'es
Wow.
habitué.
Wow.
Je pense que c'est peut-être une des raisons. Ça va peut-être jouer un peu là-dessus, je sais pas.
Mais ça se peut-tu que ça
Ah,
soit juste
ça se
la
peut, ouais.
TV?
C'est la télé. Genre, je veux dire, des amis qui se connaissent plus que moi en hardware m'ont toujours dit que c'est à cause les changements qu'ils ont dû faire à la Super Mini à cause des télévisions. Mais demande-moi pas t'expliquer pourquoi là, puis comment ça fonctionne.
Quand tu jouais traditionnellement, ça faisait combien d'années là, que tu faisais cette tradition-là?
Je sais pas, genre plusieurs.
T'as commencé ça
Plusieurs.
quand?
Je sais pas.
Tu sais pas? Ben
Non!
là!
Ça fait juste comme. À un moment donné, j'ai juste commencé à le faire, puis je l'ai juste continué, puis ouais.
Ben genre, ok, on va. Genre 10 ans?
Peut-être.
Ok, dans ce
Non, ça
coin-là,
fait
ok.
60 ans, mais non, je n'existais pas.
Ok. Donc depuis à peu près 10 ans, ok, ouais, donc tu l'as fait assez souvent, effectivement. Puis traditionnellement, est-ce que tu le jouais comme sur une vraie Super Nintendo, sur une vieille TV, genre? Ah ben, je pense que c'est ça le secret. Les vieilles TV sont plus rapides pour afficher les images, genre. Puis les TV
Je sais pas
HDMI,
comment ça
tout ça.
fonctionne, j'en ai aucune idée.
Ouais, il y a du délai parce que c'est numérique, puis
Mais.
ça rajoute du délai. Mais des fois, les TV, ils ont un game mode où est-ce que, genre, ils enlèvent les filtres pour rendre l'image plus belle puis plus directe. Fait que peut-être que ça pourrait être une solution pour ton problème.
Ah, sinon, un autre jeu auquel j'ai joué récemment, il y a Shenzhen IO. C'est
T'as
un jeu de
joué?
programmation, justement, où est-ce que tu programmes en assembleur
Of
des
course!
électroniques. Ouais.
C'est quoi?
C'est
Qu'est-ce
cool.
que tu comment ça marche? Qu'est-ce que tu fais là-dedans?
Ben, t'as comme des. Genre. Un niveau, en gros, c'est construire un objet électronique, par exemple, je sais pas moi. Une LED qui va s'allumer à un certain intervalle, pour dire que le temps passe. Là, tu achètes les parts, les morceaux pour faire la LED. Tu achètes la LED, tu achètes le moteur, tu achètes le chronomètre, etc. Puis là, faut que c'est programmé en pseudo-assembleur. C'est très réaliste, il y a un jeu de solitaire à l'intérieur du
Quoi?
C'est pour simuler, parce que toute l'histoire et le fait que, comme, t'es un ingénieur, programmeur, développeur, je sais pas c'est quoi le terme dans le jeu exactement, mais comme tu travailles dans une compagnie, t'as des faux courriels, puis t'as un solitaire, faut jouer au solitaire, ça.
Oh non!
En attendant.
Oh
Ça, c'est
non!
incroyable.
Attends, non, mais là, attends, là, comment t'as dit que ça s'appelait cette affaire-là?
Shenzhen IO, comme input-output,
Comment t'écris ça?
SH. Shenzhen IO par Zachtronics.
Ah, oh,
Ah, c'est par Zachtronics.
Zachtronics, of course!
Excellent.
J'allais dire, c'est qui fait ça? C'est comme, pourquoi je pose cette question? C'était eux autres qui avaient fait le jeu, genre, TR 550, le genre. de programmation en parallèle, en assembleur. Je comprenais rien là-dedans. Ben, en fait, je comprenais, mais j'étais incapable. C'était trop difficile. Fait que tu joues à ça. C'est-tu le fun ou tu fais juste jouer au solitaire?
Non, je pour de vrai. Je pense que comme programmer en assembleur dans Shenzhen.io a beaucoup amélioré ma compréhension de la programmation de bon niveau en général. Ouais.
C'est comme... T'as-tu entendu parler de Human Resource Machine?
Non. C'est quoi?
C'est ceux qui ont fait World of Goo, puis le jeu de feu, là, que j'oublie le nom.
Little Inferno. Oui.
Little Inferno. Ils ont fait... c'est ça. Ils ont fait Human Resource Machine, puis après ça, ils en ont fait un sequel qui était genre...
C'est Tomorrow Corporation.
Ouais, Tomorrow Corporation, le studio. Dans Human Resource Machine, t'as des petits... Oui. T'as des petits bonhommes, puis tu leur donnes des... C'est des employés, puis tu leur... Ils sont un peu niaiseux. Fait que tu leur donnes des instructions très précises, puis donc, essentiellement, t'écris de l'assembleur. Mais c'est tout cute! Puis c'est genre avec des petits bonhommes, puis ça te permet de vraiment... le voir comment ça marche, parce que tu vois le petit bonhomme marcher, aller ramasser le papier, aller le déposer dans la variable, puis genre, t'apprends vraiment à utiliser ça, puis c'est vraiment une bonne introduction à l'assembleur, puis ma sœur, qui a pas vraiment fait de programmation dans sa vie, elle s'est rendue pas mal loin, là. Tu sais, comme... Il n'y a rien dans le jeu qui dit « Hey, by the way, t'es en train de faire de l'assembleur. » Mais t'es en train d'en faire. C'est juste très cute. Avec des petits bonhommes. Puis dans le sequel, 8 Billion Humans, c'est...
7.
Ah, oh, 7 Billion Humans.
Oui. C'est pour que les gens puissent le trouver. C'est pas parce que je suis
c'est plus... C'est de l'assembleur, mais avec... les notions de programmation en parallèle, puis genre, tu programmes... Au lieu de programmer un humain qui va faire plein de tâches, tu programmes tous les humains en même temps, puis ils bougent tous en même temps, puis c'est le bordel. Fait que c'est comme plein de petites state machines, dans le fond. Puis là, il faut qu'ils travaillent ensemble pour... Fait qu'il faut que tu penses différemment, puis moi, programmer en parallèle, c'est trop compliqué. Fait que je dis ça si ça t'intéresse. Ah, oh, Dranzior, je sais pas. Y'a-tu du multi-threading? Y'a-tu des mutex? Je sais même pas c'est quoi des mutex. Mais comme... peut-être. Bon. On approche de la fin du podcast. Est-ce que... mettons que... Qu'est-ce sur quoi qu'on va conclure, là? C'est quoi les... Y a-tu des choses que tu voudrais nous dire? Y a-tu comme un projet que t'es très fier, que t'aimerais plugger avant de qu'on termine le podcast?
Bonne question.
C'est quoi ta plus grande fierté?
J'ai l'impression qu'on est quand même...
grand échec?
J'ai quand même l'impression qu'on a eu le temps de parler de beaucoup de mes projets sur différents angles aussi, fait que c'était intéressant. Ça va m'en venir dans 30 secondes, je sais pas, pour le moment, il y en a qui lui a l'esprit, désolé.
Ben, de toute façon, on arrive pas mal au mot de la fin. Le mot de la fin, c'est juste une manière où est-ce que chacun... Je l'explique pour Edith, là, dans le fond. C'est que chacun va plugger une dernière petite affaire qu'on veut dire avant de quitter la podcast. I guess que toi, ton mot de la fin, ça pourrait être juste de plugger tes sites web ou comment on peut te trouver sur les internets. Alors, comment peut-on te trouver sur les internets? Où trouve-t-on tous tes jeux et toutes tes patentes?
La meilleure façon... Ben, pour les projets de FanArt Charlist, ça va être sur fanartcharlist.com. J'ai une mailing list sur laquelle j'envoie pas trop de messages parce que préfère que les gens les lisent plutôt que les gens disent ah non, pas encore un autre message. Et
Oui.
archive.
Oui.
Mais c'est probablement la meilleure façon de se tenir au courant de mes projets, c'est probablement sur cette mailing list-là.
Et sinon, je pense que tu avais un site personnel ou quelque chose. Est-ce que ça, c'est
Oui,
une
mes
bonne
autres
endroit?
projets sont sur vio.net
Oh, je
pour
pense à couper.
l'ensemble
Peux-tu le
de mes
répéter?
projets. J'ai dit, pour l'ensemble de mes autres projets, c'est sur evio.net.
Yes!
Je vais le mettre dans le chat.
Et donc, ouais, mot de la fin. Est-ce que Blob et Anne-Marie, vous avez des mots de la fin?
Je travaille toujours sur Shovel Knight parce que j'ai eu le malheur de commencer une New Game Plus qui est beaucoup plus difficile. Puis il faut que je fasse tous les boss du jeu avec une barre de vie. Puis à peu près pas de bouffe entre chaque combat. Normalement, quand tu joues au jeu normal, t'as une cloche avec du manger entre chaque combat, mais là, j'en ai un à chaque trois combats. C'est horrible, c'est super difficile. Fait que je suis pogné à cet endroit-là, mais j'ai la volonté. Un moment donné, je vais passer à travers. Puis je vais pouvoir essayer les autres personnages.
Good. Moi, je commence à perdre patience dans Final Fantasy 3, là. Ça allait bien, le vrai 3, là, le 3 original avec les Onion Knights. Ça allait bien, mais là, j'ai atteint le moment du jeu où il faut vraiment que je farm. Puis si je commence à perdre patience. Une chance que c'est cute. Sinon, je suis toujours pas fini Final Fantasy 15. Je joue à Genshin Impact. Ouais, pas grand-chose, mais je devrais avoir une couple de jeux à amener là, dans les prochaines semaines que je commence tranquillement.
Ben moi,
Donc,
mon mot de la
avenir.
fin, parlant de perdre patience, mon mot de la fin, ça va être
Oh
genre What the fuck Discord à soir? Qu'est-ce qui se passe?
ben
Comment ça se
oui!
fait que ça lag autant?
Mais j'ai l'impression que c'est
Genre,
beaucoup toi.
c'est tout. Bah, c'est beaucoup
Ouais.
moins. Ah bon, ben ça a l'air que c'est de ma faute.
Ben, je sais pas. Ouais, mais Discord, des fois, il décide qu'il dompe sur quelqu'un, là. Mais
Fait que.
c'est un peu triste.
Ben, on s'excuse. J'espère que le pod, pour ceux qui nous écoutaient en live ou qui nous écoutent en audio ou en podcast, j'espère que c'était pas trop pénible. On est très content, malgré tout, d'avoir eu notre invitée Edith, alias Finarchalist. Hein? J'ai pratiqué ma
Merci.
prononciation.
Merci
Merci
d'avoir
beaucoup
fait ça
d'avoir
à
été là avec
nous.
nous. C'était vraiment cool. Puis, ben, si jamais tu veux revenir nous voir dans le futur pour nous parler de tes études de marché et de whatever, les affaires weird que tu vas faire, ben, tu es la bienvenue et on
Tout
espère
à
que
fait.
bon, moins de problèmes techniques.
Et si
Ben,
tu veux
merci.
juste revenir parler de jeu, pas nécessairement ce que tu as fait, t'es aussi la bienvenue. Un gros merci.
Et ouais, pour ceux qui nous ont écoutés et qui veulent s'abonner, on est sur Apple Podcasts, YouTube et Twitch. En fait, on est sur toutes. Je sais pas si je dis toujours Apple Podcasts, mais en réalité, on est pas mal sur toutes les plateformes. Si vous nous cherchez, vous allez nous trouver. C'est juste que officiellement, on est sur Apple Podcasts et genre les autres, ils vont le trouver somehow. Fait que je pense pas qu'on est sur Spotify, là, mais on est pas mal sur tout le reste. Tous les liens sont sur notre site web, onajustunevie.ca. Vous pouvez nous envoyer des emails pour nous dire des choses à info@onajustunevie.ca. Merci aux gens qui nous ont écoutés en live ce soir dans le chat et qui ont jasé avec nous autres. Vous pouvez rejoindre notre groupe Discord pour continuer à jaser durant le reste de la semaine avec nous autres. Le lien est aussi sur notre site web. Merci à Edith, évidemment, d'avoir été là avec nous ce soir. Merci à Blob et Anne-Marie d'avoir été là aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine parce que
On
on
a
a
juste
juste
une
une vie!
vie. Bref, ouais, c'est le moment de la soirée où on reste live, puis on fait juste jaser avec nous autres même, puis le chat. Donc, Edith, merci d'avoir été là, mais comme si tu veux nous quitter, c'est quand tu veux. T'as plus d'obligation d'être là.
Ah non, c'est pas vrai, là.
Ah ouais?
Tu dis n'importe quoi, là.
Quand c'est juste n'importe quoi.
Non, tu t'en es peut-être pas rendu compte, là, mais si tu regardes, tes pieds sont attachés avec des tie wraps, et puis t'en allais. T'es pogné, nous autres, pour la fin des temps, là.